destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM.
Bonjour à toutes et à tous, deuxième volet de notre émission de tourisme sur le département de l'Ain. Pour ce mois d'août, Radio B, située à Bourg-en-Bresse, vous fait découvrir la Bresse et le Haut-Bugey, deux territoires indinois très différents. Visite du domaine des saveurs Les Planons, où l'on peut admirer une ancienne ferme bressane et découvrir les savoir-faire d'antan. L'office de tourisme du Haut-Bugey nous donnera aussi des idées pour s'aérer entre Nantua et Oyonnax vers les monts du Jura. Le domaine des saveurs Les Planons, c'est 22 hectares nichés dans la campagne. On peut y découvrir une ferme bressane du XVIe siècle, classée monument historique avec sa cheminée sarrasine, et aussi un musée qui retrace les savoir-faire d'antan. Thomas Tantelier est médiateur au domaine des saveurs Les Planons, il nous fait visiter. Là, on est dans la Bresse. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce territoire de l'Ain ?
La Bresse, en fait, c'est une région qui est homogène géographiquement. Mais par contre, administrativement, elle se divise entre deux départements. Donc on a la Bresse bourguignonne sur la Saône-et-Loire et on a la Bresse de l'Ain, dite Bresse savoyarde, sur la partie donc, du département de l'Ain. Après, il faut savoir que géologiquement, c'est une région qui est essentiellement constituée d'argile au niveau du sous-sol. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est important de le savoir, puisque en fait, l'architecture rurale en Bresse, c'est une architecture en terre crue, donc une architecture qui va utiliser de la terre argileuse. Ce n'est pas spécifique à la Bresse, mais dans la Bresse, on est dans une des régions de France où on bâtit en terre crue. Après, si je devais un petit peu la décrire dans une époque un petit peu reculée, on va dire, à 100 ou allez, 150, 200 ans en arrière, il faut imaginer une région qui est une région de passage. Hein. Il y avait des grands axes de circulation, mais c'est une région où on va quand même plutôt moins bien circuler l'hiver. Hein. Ça va être quand même beaucoup de chemins un petit peu tortueux et ça va générer un mode de vie un petit peu autarcique par le passé, avec un habitat dispersé. Les villages sont traditionnellement plutôt petits en Bresse, avec l'essentiel. Hein. On a quelques artisans comme le charron, le maréchal ferrant, des tisserands. Et ensuite, on va avoir des domaines agricoles dispersés un petit peu partout en fait dans le paysage. Et c'est des domaines qui sont souvent voire très autonome, bien que ce soit le mode de vie dominant par le passé, c'est un petit peu amplifié ici du fait de la difficulté de circulation. Et sur beaucoup de fermes, en particulier un petit peu aisées, on va trouver des fours à pain. Il y en a sur cette ferme-ci. Donc voilà la ferme.
C'est quoi qui fait la particularité au niveau de l'architecture d'une ferme bressane ?
Pour reconnaître une ferme bressane, le premier élément d'architecture qui, lui, pour le coup, est vraiment représentatif de la région, c'est la cheminée sarrasine. Voilà. On la voit ici. Ça, c'est vraiment l'élément qui singularise une ferme bressane. Dans la ferme ici qui nous occupe, c'était une ferme un petit peu aisée. Donc du coup, la galerie, il n'y en a pas toujours dans les fermes bressanes. Ici, elle est un petit peu aménagée de manière monumentale avec des arcades, des piliers qui ont été sculptés. Donc ça donne quand même des bâtiments agricoles un petit peu fastueux, tout de même, qui essayent de reprendre les codes de l'architecture de pierre plus prestigieuse. Donc il y aura du colombage ou plus récemment du pisé. Voilà. Mais vraiment, l'élément qui singularise vraiment la ferme bressane, c'est sa cheminée sarrasine qui se traduit à l'extérieur par des mitres comme ça maçonnées qui ressemblent un petit peu à des clochers. Ici, on est dans une ferme qui est une ferme bressane, mais qui était aussi une ferme qui dépendait d'une seigneurie assez aisée, assez riche. Donc du coup, on a un plan qui est une organisation des bâtiments agricoles qui est un petit peu plus monumentale que dans la plupart des fermes. Traditionnellement, une ferme bressane, c'est deux bâtiments en parallèle de chaque côté d'une cour. D'un côté, le bâtiment d'habitation, de l'autre, les bâtiments agricoles. Ici, on a eu quand même volonté de fermer entièrement la cour de la ferme, ce qui donne un aspect un petit peu plus monumental. Voilà.
Pourquoi cette architecture pour cette cheminée ?
Elles apparaissent à la fin du Moyen-Âge. C'est probablement des éléments de construction qui sont apportés lors de mouvements de population à cette époque-là. Alors, on a parlé de sarrasin à une époque. En fait, il fallait plutôt entendre le terme sarrasin dans le sens de bizarre, un petit peu étrange, en fait. Hein. C'est plutôt, oui, des mouvements de population, probablement d'Europe de l'Est, qui auraient amené cet élément de construction. Mais vraiment, ça reste quelque chose d'assez mystérieux qui apparaît à la fin du Moyen-Âge. Voilà. Donc là, on rentre dans la pièce principale de la ferme. C'est dans cette pièce que va se trouver la cheminée sarrasine, qui est véritablement le centre de la maison. Alors je vais vous inviter à passer cette énorme poutre qui barre la pièce en largeur pour nous retrouver donc dans la hotte de la cheminée. Alors la cheminée sarrasine, c'est vraiment ce qui structure la ferme bressane. Hein. Donc dans le paysage, on voit le conduit de cheminée qui domine les bâtiments. Et à l'intérieur, on a cette énorme hotte de cheminée. En général, elle fait 3 mètres de côté. Elle occupe une très grande partie de la pièce principale. Et dans toutes les fermes, elle est conçue de la même manière. Elle repose d'un côté sur un mur de refend. C'est un mur qui traverse le bâtiment et qui est porteur. Et de l'autre côté, s'appuie sur cette énorme poutre. On n'est pas obligé d'avoir une hotte aussi vaste que celle-ci. On n'est pas... Mais visiblement, dans cette région, c'est très important pour les agriculteurs. À mon sens, je pense qu'il y a une manière de mettre en valeur en fait, le foyer. Il faut savoir qu'avec la cheminée bressane, il y a des éléments de mobilier aussi qu'on retrouve dans toutes les fermes, dont le banc qui se trouve ici, qui s'appelle l'archevent. Ce banc, en fait, il n'est pas réservé à tout le monde. Il est plutôt pour les personnes anciennes ou les invités qu'on veut mettre en valeur. Et puis ensuite, ce banc, il va aussi avoir un rôle juridique. C'est en général sur ce banc qu'on s'installe pour conclure des accords. Des accords de mariage, un bail de fermage. Voilà, on va s'installer sur ce banc. Ce banc étant installé à la construction de la ferme et béni à ce moment-là, c'est un banc qui est un petit peu, qui a une charge symbolique assez importante. Voilà, d'où ce rôle qui lui est confié. Et c'est vraiment l'élément de mobilier qui est toujours associé à la cheminée sarrasine dans les fermes bressanes.
Et donc il dormait là, a priori, il y a les lits.
Alors en fait, la manière d'organiser une maison par le passé n'est pas vraiment la manière dont on l'organise aujourd'hui. Il n'y a pas de pièce spécialisée. La pièce à vivre, donc la pièce principale, elle va être réservée au fermier et à sa famille. Et donc cette pièce, eh bien en fait, c'est une pièce dans laquelle on dort. Donc du coup, c'est la chambre à coucher, il y a un lit dans un coin, c'est la cuisine dans la cheminée sarrasine, c'est la salle à manger, on a la table pour s'installer et prendre ses repas. Et c'est aussi la pièce dans laquelle on va recevoir. Donc du coup, imaginez en fait que dans l'habitat traditionnel rural, on fait tout dans la même pièce. Simplement, là où les choses vont s'organiser, c'est que la pièce principale va être réservée au fermier et à sa famille, et les autres pièces, vont être réservées aux bonnes et aux valets de ferme.
Pour en savoir plus sur le mode de vie des Bressans dans le passé, c'est au domaine des Saveurs Les Planons, à 30 minutes de Bourg-en-Bresse. Il est ouvert à la visite tous les jours, de 10h à 18h, sauf le mardi. C'est 7€ l'entrée et gratuit pour les moins de 18 ans. Cette année, vous pouvez faire des visites thématiques d'une demi-heure sur l'architecture ou les coiffes d'antan, le mercredi seulement à 11h et 15h. Et si vous voulez découvrir d'autres fermes bressanes, vous pouvez aller à la ferme de la Forêt à Courte ou encore à la ferme du Souget à Montrevel-en-Bresse. Pour vous rafraîchir, juste à côté, vous trouverez une base de loisirs, la Plaine Tonique, avec son camping, sa piscine et son lac. Un autre territoire du département de l'Ain, c'est le Haut-Bugey, plus en altitude que la Bresse et avec des paysages plutôt impressionnants.
Bonjour Nathalie Kennebar.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication à l'Office de tourisme du Haut-Bugey. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce territoire situé près du Jura?
C'est à peu près 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève. Et c'est vrai que nous sommes voisins avec le département du Jura qui est au nord. Et c'est un territoire de moyenne montagne du coup, hein, puisque c'est la montagne du Jura, avec de nombreux lacs, comme le lac de Nantua, le lac Genin, mais aussi d'autres paysages comme les gorges de la rivière d'Ain par exemple. Au niveau des villes les plus connues, on va pouvoir citer Oyonnax, Nantua et Plateau d'Hauteville.
Si on a une journée à consacrer au Haut-Bugey, qu'est-ce que vous conseillez aux touristes?
Donc pour commencer, dans le Haut-Bugey, on peut partir en randonnée pour s'immerger dans la nature. Donc on a le choix, on peut très bien choisir un itinéraire en direction des gorges de l'Ain, avec un point de vue sur les méandres de la rivière. Il faut savoir que la rivière d'Ain, la haute vallée de l'Ain, c'est un site naturel classé, un espace naturel sensible. L'Ain parcourt 26 km de courbe dans un territoire sauvage et préservé. Et faire cette randonnée, ça permet d'avoir un super panorama sur ces méandres. On peut en profiter aussi pour pique-niquer au sommet. L'itinéraire des gorges de l'Ain démarre depuis un village dans la vallée de l'Ain qui s'appelle Bolozon. C'est déjà une belle randonnée, 15 km avec 420 mètres de dénivelé. Mais pour ceux qui ne sont pas des randonneurs chevronnés, on peut y accéder par une simple balade de 20 minutes au départ d'un parking.
Et pour se rafraîchir, est-ce qu'il y a des activités en extérieur près des lacs ?
On a des petites balades autour de l'eau qui sont bien adaptées aux personnes qui ne sont pas forcément randonneurs et puis aux familles. Donc ce sont des petits itinéraires de 30 minutes à 1h15, 1h30 qui vous emmènent vers des cascades le long des rivières, dans des gorges. Et donc là, les gens et surtout les enfants en toute sécurité peuvent patauger dans l'eau de façon agréable. On a par exemple l'itinéraire de la Sarsouille à Oyonnax. On longe la rivière, on est dans la forêt au calme. Et plusieurs reprises, il y a des guets à passer avec des grosses pierres installées en travers la rivière. Pour les activités nautiques à proprement parler, elles sont essentiellement concentrées sur le lac de Nantua. Donc le lac de Nantua, c'est un lac d'origine glaciaire qui fait 140 hectares à peu près. Et il est situé dans un cadre particulier puisqu'il est dans la cluse de Nantua, c'est-à-dire qu'il est bordé de part et d'autre de falaises calcaires. Donc sur ce lac-là, on peut tout simplement pratiquer la baignade. Il y a deux plages surveillées, mais aussi prendre un pédalo, faire une sortie pédalo sur le lac, ou encore la planche à voile, le canoë, le paddle, qui sont en location au club de voile.
En cas de journée pluvieuse, ou si on veut plutôt aller en intérieur, est-ce que vous avez des musées à proposer ?
Il y a le musée archéologique à Izernore. Alors pourquoi un musée archéologique à cet endroit-là ? C'est parce qu'il y avait une cité antique, Izernodorum, et le musée en fait présente des objets qui ont été retrouvés sur site, et ce sont les objets qui cheminent depuis le terrain de fouille jusqu'au musée, en passant par le laboratoire de l'archéologue, etc. Et le musée de la résistance et de la déportation à Nantua, que c'est une lecture actualisée des événements de la Seconde Guerre mondiale à travers le vécu des habitants de l'Ain. Après, je souhaiterais citer deux sites de visite qui sont particuliers, insolites, à commencer par les glacières de Silan. Donc les glacières de Silan sont situées au bord d'un autre lac, le lac de Silan. Ça consiste en de grandes ruines, c'est un énorme bâtiment, enfin plusieurs bâtiments, même en pierre. On découvre l'histoire de ce bâtiment qui a été en activité depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 1917. Et on extrayait donc sur ce lac, en hiver, des blocs de glace et on les exportait par voie de chemin de fer dans toute la France. C'était jusqu'à Paris, Lyon, Marseille et même jusqu'en Afrique du Nord. C'était une époque où les réfrigérateurs et les congélateurs n'existaient pas. Et l'autre site à visiter, c'est le chantier médiéval de Montcornel. C'est un chantier qui a débuté maintenant il y a 2 ans, qui va se poursuivre pendant 40 ans. Et ce sont les artisans, les bâtisseurs, que ce soit des charpentiers, des menuisiers, des tailleurs de pierre ou des ferronniers, qui reconstruisent une ville comme en 1347, mais avec les techniques du Moyen-Âge.
Donc une fois qu'on a choisi nos activités pour la journée, où on peut se restaurer ?
Pour reprendre des forces et avoir un petit moment plaisir, on peut par exemple choisir un restaurant avec terrasse au bord du lac de Nantua déjà pour le cadre. Et puis au niveau spécialité locale, on ne peut pas venir dans le Haut-Bugey sans déguster la quenelle de brochet sauce Nantua, bien sûr. Sans aller dans un restaurant, les lieux de pique-nique sont très très variés. Je conseillerais un bord du lac ou être au bord de l'eau comme le lac de Loignin ou bien l'étang d'Élésine qui est plus en altitude sur le plateau d'eau de ville à 850 mètres. Et lors de ce pique-nique, on peut tout à fait se fournir en produits locaux, comme le comté, puisque le Haut-Bugey est dans la zone de fabrication comté, mais aussi la charcuterie, le pain, différentes boissons et des douceurs.
Merci Nathalie Kennebar. Je rappelle que vous êtes chargée de communication à l'Office de tourisme du Haut-Bugey. Tous les mardis soirs, vous pouvez retrouver le marché des producteurs et des artisans à Nantua pour vous restaurer et acheter des souvenirs. C'est la fin de cette émission sur le département de l'Ain.
Profitez bien de vos vacances dans notre belle région. Radio B, la radio associative de Bourg-en-Bresse, vous souhaite une très belle journée.
C'était Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM, Fédération des radios associatives non commerciales Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez toutes les productions de cet été sur le site aurafm.org.